Yann Arthus-Bertrand, je suis photographe, réalisateur, et j'essaye de plus en plus de donner du sens à ma vie.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute les invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si l'on fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Nous avons tous nos figures de référence, des personnalités qu'on a toujours connues depuis qu'on est petit et qui, parfois même devenues adultes, continuent à nous faire grandir. La Terre vue du ciel, ce livre de photographie aérienne qui a propulsé sa carrière, faisait partie de la bibliothèque chez mes parents. Les paysages du monde comme on ne les avait jamais vus. Jamais je n'aurais imaginé que je rencontrerais un jour l'homme à la moustache et encore moins que j'aurais le bonheur de l'interviewer. Je l'ai rencontré lors de son déplacement en soutien aux sinistrés des inondations monstres de juillet 2021 dans la ville de mon enfance, Dinan. Il n'avait pas hésité à donner de son temps pour venir assister en personne à la projection de son film Legacy. Les fonds récoltés par cette soirée ont été redistribués à ceux qui ont tant perdu lors des inondations. Alors évidemment, comme la plupart d'entre vous, je suppose, Yann Arthus-Bertrand, je le connaissais sans le connaître. Et en préparant l'épisode, en le rencontrant, j'ai appris à l'apprécier davantage encore. C'est un personnage d'une profonde humanité qui n'a pas peur de montrer ses aspérités, ses bourdes, ses regrets. Ce regard humain sur l'humain, il le transmet d'ailleurs merveilleusement dans ce qui est une de ses réalisations dont il est le plus fier, le film Human, que je te recommande vraiment, 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 vraiment. Bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Bonjour à toi.
Alors, je demande souvent aux invités de se présenter, toi, il n'y a pas vraiment besoin. Alors, j'aimerais que tu me dises, présente-toi comme tu aimerais qu'on te présente plus souvent.
Sans faire le malin. Yann Arthus-Bertrand, je suis photographe, réalisateur, et j'essaye de plus en plus de donner du sens à ma vie. Ouais. Voilà, tout simplement, d'une façon modeste, si on peut, j'ai déjà bourré d'ego, d'essayer de me rendre meilleur. Je me suis beaucoup regardé quand j'ai commencé, et j'essaye maintenant que j'ai très modestement réussi ce que j'avais envie de faire, voilà, de ne pas vieillir, mais de grandir.
Ça, il n'y a pas de limite.
Ouais,
c'est bien. Alors, tu es issu d'une famille de 6 enfants, et tu es le plus turbulent, enfin j'espère, pour tes parents.
Oui, j'étais le turbulent, oui.
Viré d'une quinzaine d'écoles, tu claques la porte de chez toi à 17 ans. Alors, tu es chevalier de la Légion d'honneur, peintre de la Marine, chevalier de l'Ordre de Mérite Agricole, officier de l'Ordre National du Mérite. J'en oublie peut-être.
Je suis décoré comme un général russe. Je ne sais pas si ça se dit aujourd'hui.
Mais ce qui te touche le plus, c'est d'avoir plusieurs écoles à ton nom. Alors, pour quelqu'un qui a détesté l'école au point de vouloir leur mettre le feu, ça m'a fait beaucoup rire.
Oui, c'est les enfants qui choisissent. Et puis là, tu as les posters de ODD, les posters qu'on fait dans toutes les écoles de France. C'est comme ça que les enfants me connaissent, en fin de compte. On a envoyé pendant des années, tous les ans, et là, on l'a fait l'année dernière. Je crois que c'est la 6e série. On envoie 80 000 kits de dizaines de posters sur des thèmes, développement durable, l'eau, tu vois, changement climatique. Ça, c'était les ODD, objectifs du développement durable des Nations Unies que la France a signé. Le prochain sera sur la biodiversité en France, voilà, qui répond au film qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est un peu le problème avec l'éducation nationale qui déteste, en fin de compte, que des privés ont des idées comme ça, qu'ils le financent. Et voilà, c'est pas pour moi, c'est par la fondation, mais voilà, donc on essaye. Et dans toutes les écoles de France, il y a toujours un ou deux posters qui traînent, qu'on a envoyés depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pour ça que les enfants ont voté pour moi. Je pense qu'ils me connaissent mon nom.
voilà, d'accord. Mais toi, c'est quelque chose qui te fait encore plus plaisir qu'une médaille.
C'est très émouvant chaque fois. Et surtout, tu as l'impression que c'est une imposture. Quoi. Tu te dis, c'est pas normal qu'une école porte mon nom. C'est très symbolique quand même, tu vois. Et je crois qu'il y a pas, je crois, 13 écoles qui portent mon nom. Il y en avait 14, une qui a fermé, petite école. Alors c'est des petites, il y a même un lycée agricole. Et j'y vais pas assez, donc j'ai un peu honte. Peut-être quand je serai à la retraite, je sais pas, quand j'aurai du temps. Mais je fais des visios maintenant avec les enfants, c'est bien. Voilà.
Alors, tu es devenu académicien aussi. J'ai vu une petite vidéo de ton essayage de la fameuse veste qui est absolument superbe. J'ai bien aimé parce que tu demandais si on pouvait mettre les mains dans les poches. Alors, on peut ou pas?
Oui, bien sûr. et j'ai fait dernièrement, c'est sur YouTube, un discours à l'académie.
Ouais, je l'ai entendu.
Qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai fait un bide total. Tu vois, avec de l'émotion dans la voix, je parle de la 6e extinction, de notre responsabilité, parce que c'est une vraie responsabilité, pas une culpabilité, mais de laisser ce monde tel qu'il est inquiétant aux enfants. Et je pense que notre rôle est de les aider et que Si nos enfants nous demandent un jour qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu nous as aidé ou est-ce que tu as laissé tomber, quoi. Est-ce qu'ils pourront dire, ils ont été courageux, ils ont changé quelque chose, ou alors ils en avaient rien à foutre, et pour l'instant, on n'en a rien à foutre. Et j'ai été étonné de voir ce bide total que j'ai fait à l'académie où je dis Greta Thunberg devrait être à ma place, à parler sous la coupole, que notre académie devrait être planétaire, que notre épée devrait être une arme, tu vois, contre le changement climatique. Et c'est toujours assez émouvant c'est très émouvant de parler de la sixième extinction, parce que quand tu comprends ce que ça veut dire, c'est pas des mots morts pour moi, ça veut dire quelque chose. Et je me souviens que le secrétaire perpétuel m'a dit à la fin, bravo, t'as mis de l'ambiance, quoi, c'était sidérant. Et donc le bide total. Bon, il y avait 5 académies qui parlaient. Et là, j'avais pas que moi, donc il y avait d'autres discours après, bon voilà. Et le lendemain, j'ai fait une conférence à Polytechnique, avec les enfants, les jeunes ingénieurs. Mais je peux te dire que j'ai été étonné de voir que 30% étaient végétariens, que 30% avaient envie de devenir végétarien, c'est souvent une question que je pose, est-ce que vous avez envie de devenir végétarien ? Et une inquiétude, quoi, une conviction profonde qu'on allait vers la fin du monde. Et si tu veux, les gens de ma génération ou un peu en dessous de moi, en fin de compte, ça ne les intéresse pas. Ils en parlent beaucoup, mais c'est pas rentré dans leur conscience. Voilà, donc l'académie, oui, mais voilà, je me sens un petit peu étranger. L'autre jour, je me souviens, il y avait un déjeuner à l'académie, il y avait du foie gras. Et je dis, c'est pas normal, aujourd'hui, ayant des gens un peu éclairés, quoi, sachant ce qui se passe, qu'on mange du foie gras. Et j'ai râlé fortement, et j'étais le seul. Tu vois, on est quand même 45, 50, on se connaît. On dit qu'on est immortel parce qu'on va vivre tout jusqu'à la fin de ta vie, tu es académicien. Et ça m'a... Bon, faut pas passer son temps à reprocher aux autres, mais je me dis, c'est pas normal, quoi, qu'aujourd'hui, dans une institution si importante, avec des gens qui savent ce qui se passe, qu'on serve du foie gras. Ouais. Qui est un résumé de souffrance animale, quoi, quelque part.
Ça me fait juste... Ouais, c'est horrible. Ça me fait juste rire parce que j'ai été manger avec un végétarien convaincu et on parlait. Et je ne mange plus jamais de foie gras non plus, pour les mêmes raisons que toi. Mais là, c'était justement à Paris. J'y viens rarement. Et on va dans un resto et il y avait un petit truc, un périgourdin avec un peu de foie gras. Je dis, oh, super, je commande ça. Puis je me suis fait avoir par l'enthousiasme du moment. Mais moi, j'avais honte. Je me dis, mince, j'ai commandé du foie gras.
Mais il ne faut pas... faut pas interdire non plus tous les plaisirs. Ce qu'il faut, c'est de le savoir. C'est pas... Voilà. Moi, je suis végétarien et depuis quelques semaines, j'ai même arrêté tout ce qui est produit laitier, fromage.
Végétalien, alors.
Ouais, je suis pas encore... j'ai mangé une pizza alors qu'il y avait du fromage, donc toi, sans faire attention, mais je...
Réduire, au moins.
Y a une vidéo, le 214, qui vient de passer sur comment on traite les veaux. Quand tu vois ça, t'as plus envie de prendre du lait. Tu dis, c'est moi, je veux pas. Parce qu'en fin de compte, quand tu prends du lait, tu participes à ça. Voilà, quoi que tu dises. Tu es acteur.
Quand t'as deux jeunes enfants, c'est compliqué quand même. Mais
ouais, mais on peut. Non. Je pense qu'on peut vivre sans lait. Ou du moins faire attention, en tout cas, réfléchir. En tout cas, bon, de toute façon, je vais pas te faire la. Ça va.
Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis convaincue de toute façon. Hein,
donc, non, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, j'étais végétarien. Quand tu vois les veaux qui sont enlevés, parce que bon, on ne sait pas, c'est que pour faire du lait, eh bien, une vache, elle doit enlever un veau tous les ans, sinon on ne peut pas faire de lait. Et le veau, on l'enlève, parce que sinon, si le veau boit le lait, il n'y a plus de lait. Comme les prix sont très très bas, la rentabilité est très très petite, donc il faut absolument que la vache produise un maximum, donc on enlève le lait. Donc les veaux partent à l'engraissement, souvent en Irlande. J'ai une copine qui est partie en Irlande il n'y a pas longtemps. Tous les jours, il y a 2600 veaux, tous les jours, qui partent en Irlande par le ferry. Il y en a qui meurent, bon, c'est incroyable. Et puis, une vache, normalement, elle vit quand même, 15, 20 ans, et elle peut faire du lait pendant 15 ans. Ben, aujourd'hui, une vache, la Holstein, qui est une vache qui a été importée du Canada, qui n'y avait pas de Holstein en France dans les années 70, ça, c'est incroyable, qui est une vache qui a été sélectionnée pour son abondance, sa production. Eh bien, une vache, dès qu'elle a fait 4 lactations, comme elle produit moins, les pies sont énormes, abîmées, elle part à l'abattoir. Aujourd'hui, 80% du bœuf que tu manges en France, 80%, c'est des vaches réformées. 80% du bœuf. Donc, tu vois, on te vend du bœuf qui n'est pas du bœuf, qui est de la vache, en fin de compte. Ouais. C'est un nom générique. Donc, ce monde dans lequel on vit, et je pense qu'une grande réforme à faire, c'est et c'est très étonnant, comme j'en parle dans toutes mes conférences, c'est ce que j'en fais, j'en parle beaucoup, on fait beaucoup dans mes films, mais j'ai pas l'impression, même si aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus végétariens que les adultes, mais moi, je raconte une histoire que je raconte dans mon livre, mes meilleurs amis, que je vois tout le temps.
T'arrives pas à les convaincre.
Ouais, oui. J'arrive pas à les convaincre. Je me suis aperçu que le jour du réveillon, ils m'envoyaient faire des courses à 7h du soir pour que je puisse manger leur foie gras sans que je les engueule. Tu te dis, mais comment... Bah, tu n'arrives même pas à convaincre tes amis intimes, comment tu vas arriver à convaincre les autres, quoi?
Et
c'est compliqué, voilà. Bon,
c'est très compliqué.
Ouais. C'est une espèce de banalité du mal dans lequel on vit. Je ne suis pas mieux que les autres, hein, c'est pour ça que je ne me sens pas du tout supérieur aux autres. Mais je ne comprends pas que...
Une grande passe d'ignorance. Enfin, il y a plein de choses. Les gens tombent dénus quand on leur explique. Et puis après, comme tout le monde le fait, il y a un aspect de masse aussi.
Banalité du mal. Et peut-être que nous, on lit des bouquins toute la journée là-dessus. J'ai une fondation. Peut-être que je suis peut-être plus courant, quoi, plus éveillé là-dessus. Mais c'est étonnant.
Ça ne fait pas la une des journaux, hein, tout ça.
Quand tu vois les vidéos d'L214, comme elles font du buzz en France et comment elles sont lues et vues. Non, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se monter.
Oui,
et surtout chez les jeunes. On n'a pas été élevés avec ça. Moi, c'est quelque chose que L214, que ces vidéos, ça fait 10 ans qu'on les voit. Avant, on le savait sans le savoir, quoi. Et aujourd'hui, on le sait, quoi. C'est aussi la force des réseaux sociaux. Ça, c'est extraordinaire.
Du coup, ça touche aussi plutôt les jeunes, quoi.
On se demande pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous... les jeunes seraient plus intelligents que nous. Quoi.
Ils sont sans doute plus concernés, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Écoute, vous êtes plus sensibles. Et peut-être c'est difficile de se remettre en cause. Peut-être que...
Changer ses habitudes,
ouais,
c'est terrible.
C'est peut-être aussi une qualité que seules personnes ont et pas d'autres, de se remettre en cause. Il n'y a pas très longtemps...
Quand on a la tête dans le guidon aussi, parce qu'il y a un truc que je n'ai jamais entendu dire, mais moi, par exemple, quand j'étais jeune maman avec deux enfants complètement débordés avec le boulot, le mari fort absent, et deux enfants, tu dois faire des circuits crèches, etc., tu n'as même quasi pas le temps de cuisiner, donc forcément, de commencer à te pencher là-dessus, ça te dépasse, quoi. Même si tu as envie de bien faire, de faire plus maison, etc., tu ne peux pas, t'as pas le temps. Et ça, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire, là. Offrir des repas sains, locaux, etc. La vie va trop vite.
Oui et non, je pense que... D'abord, on a peut-être, quand on est débordé, les enfants, le travail, on n'a peut-être pas le temps de réfléchir à autre chose. Mais en même temps, si c'est des convictions extrêmement profondes, je travaille avec des jeunes ici, je peux te dire qu'ils ne font pas de concessions, et même ceux qui ont des enfants et tout. Non, faut pas être trop radical et pas trop, faire attention, mais... C'est le secret, en fin de compte. Pourquoi est-ce qu'on arrive à convaincre certaines personnes et pas d'autres? Si on le savait, ça serait super. Hein, voilà. Et c'est des efforts. Hein, c'est pas des contraintes. C'est des choses qu'on doit accepter. Agir en heureux, moi, je suis persuadé. Et le fait d'être végétarien, j'ai 76 ans, plus manger de fromage, on s'en fout. Mais, en fin de compte, c'est un effort dont je suis content de faire. Voilà, c'est pas une contrainte. C'est pas une chose que j'ai choisie et je suis content de le faire. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Faut toujours voir ça comme ça, comme un plus dans sa vie, quoi.
J'aime bien la légende, tu la connais certainement, avec quel loup nourris-tu tous les jours, le loup blanc et le loup noir qui se battent. Tu ne connais pas cette légende?
Non,
je crois
qu'elle
est amérindienne. Un grand-père qui raconte à son petit-fils l'histoire d'un loup blanc et d'un loup noir qui se battent. Et il parle de ça, et le petit nez, lequel va gagner? Il dit, mais celui que tu nourris. Parce que voilà, le loup blanc, c'est le bien, le loup noir, c'est le mal, et tous les jours, on en nourrit. Hein. Alors lequel est-ce que tu vas nourrir? Voilà, je trouve ça, c'est une belle, belle histoire.
Je m'auto-interromps pour te proposer un petit passage à l'action. Ben oui, parler c'est bien, mais se bouger c'est encore mieux et ça a encore plus de sens dans cet épisode-ci. Si tu as entamé une transition pour être plus léger pour la planète au quotidien, j'aimerais que tu me fasses part de ce qui t'a le plus aidé pour démarrer ou qui t'aide encore maintenant au quotidien. Parce que quand on travaille dans un secteur classique, pas une ONG je veux dire, et qu'on a des enfants, que les journées sont très longues et les nuits pas toujours bonnes, pas toujours facile de voir par quel bout prendre le problème. J'ai été là, c'est pour ça que j'en parle, et je sais que je ne suis pas la seule. Alors j'ai envie de faire quelque chose et c'est là que j'ai besoin de toi qui m'écoutes. J'aimerais que tu partages avec les autres auditeurs une astuce. Le mot d'ordre, une seule chose, simple, concrète, facile à mettre en œuvre pour les stressés pressés. Que ce soit une recette végétarienne facile qui a fait ses preuves, un livre, une astuce, un mindset, un blog super, tout ce qui te passe par la tête pour faire avancer le schmilblick. Ce serait génial que la page web de cet épisode puisse aider toutes celles et ceux qui voudraient changer mais n'ont pas le temps de chercher parmi les milliers de sites et de propositions. Alors, si tu n'as pas beaucoup de temps pour écrire, j'ouvre un répondeur web que tu trouveras dans les notes de l'épisode pour que tu m'y laisses un message vocal. C'est pas cool, ça ? Donc, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour le lien vers la page web pour y laisser un commentaire ou pour le lien vers le répondeur. Merci, merci à ceux et celles qui prendront le temps d'aider les autres, c'est important. Donc toi qui es en train de penser à un truc sympa mais qui est prêt à zapper sur une autre chose tout aussi vite, Minute Papillon, partage, on a besoin de tout le monde. Et tu peux compter sur moi pour relayer tes astuces et te répondre. Cet épisode n'en aura que plus de sens. Bon, je te rappelle tout ça à la fin de l'épisode, promis. Alors à propos de recettes, c'est le festival Miam ce week-end à Paris à la fondation de Yann Arthus Bertrand, Good Planet. Cela se passe donc les 17 et 18 septembre de 11 à 19h et c'est gratuit. Le but est d'allier gastronomie et écologie, si ça c'est pas un beau programme. Il y a des chefs qui seront sur pied de guerre pour vous montrer tout ça. Si tu écoutes l'épisode après cette date, no worries, Good Planet organise des ateliers en permanence et pas seulement cuisine. Rends-toi sur la page goodplanet.org, rubrique agenda et atelier, tu verras, ça bouge tout le temps. Si tu n'es pas sur Paris mais sur Bruxelles, Good Planet y est aussi et d'après ce que j'ai vu sur leur Insta, ça bouge énormément aussi. Et toi, les histoires, t'as toujours aimé ? Tu aimais beaucoup le cinéma à un moment dans ta jeunesse ?
Ouais, mais j'aimais le cinéma...
Comme tous les jeunes.
Comme tous les jeunes, voilà, j'aimais...
Ça a fait rêver,
voilà,
quoi.
Oui, vous aimez les étoiles, quoi, voilà. Ouais. Puis quand t'as 18 ans, que, voilà, que tout est facile dans ta vie, pourquoi pas faire du cinéma ? Moi, j'ai toujours quelqu'un qui a toujours cru que... Voilà, je comptais sur personne, c'est compter que sur moi et que très opportuniste et moi je passe pas à côté de ma chance, quoi. C'est-à-dire que quand les choses sont là, on me les propose, si je sens que c'est bien, j'y vais, quoi. Et surtout quand t'as aucun diplôme, tu prends aucun risque, parce que de toute façon t'as rien, donc voilà, ouais. C'est une chance.
Ouais, donc oui, tu disais, tu aurais tout aussi bien pu mal tourner, t'as un peu essayé le cinéma, ouais, et puis finalement, ouais. Ce qui a été déterminant dans ta vie, c'est une femme.
Ouais, oui, une femme qui avait 26 ans de plus que moi, donc je suis tombé amoureux. Et qui m'a emmené avec elle et qui m'a fait confiance et on a créé ensemble une grande réserve zoologique dans le centre de la France. Et ce que je suis aujourd'hui vient certainement d'elle. Voilà, cette passion qui m'a amené vers les animaux. Voilà, et puis quand l'histoire d'amour est partie, je suis parti au Kenya, mais c'est vraiment elle. Et d'ailleurs, avec un peu de regret, parce que quand je suis parti, j'ai pas forcément été très élégant. Voilà. Je suis parti comme un gosse de 30 ans, voilà, qui a envie de faire sa vie. Et avec le recul, je me dis, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu le faire mieux. Voilà. Ouais.
Et tu es là-bas au château de Saint-Augustin, c'est ça, hein, château sur Allier. Tu avais cerfs, sangliers, blaireaux, mais aussi des loups. Alors, que tu as une chose, que tu as retenu des loups. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, les loups ?
Alors, les loups, là-bas, je ne les ai pas eus longtemps, parce que je les ai eus en rentrant du Kenya, où j'avais élevé des petits loups que je voulais, en fin de compte, je voulais louer une toujours la naïveté dans laquelle je suis, je voulais louer une propriété entourée de murs. Il y a beaucoup de châteaux entourés de murs. Mmh. Et mettre des loups en liberté que j'aurais élevés pour étudier. Alors, bon, c'était un peu idiot parce que c'était pas la bonne chose à faire, mais j'ai eu des petits loups que j'ai élevés jusqu'à 6 mois, donc pratiquement adultes. Et après, je les ai ramenés au parc de Saint-Augustin où ils étaient. Ils avaient un grand parc. Voilà. J'ai pas eu le temps d'apprendre rien du tout sur les loups. Le problème, c'est quand tu élèves des loups, tu es le père, l'alpha, toute ta vie. Donc il y avait. Et je me souviens, ces loups, j'étais les voir 2-3 ans après. Ils sont jetés sur moi en me brassant. C'était incroyable. Comme ils savaient qui j'étais, quoi.
Et les lions, alors là.
Le lion, c'est une grande histoire d'amour parce que quand j'avais ces réserves zoologiques, j'avais eu un lion qu'on m'avait donné. C'était les lions que les photographes ont dans les bras puis faisaient des photos. Tu sais, ils font des photos dans les bras des lions complètement habitués à l'homme. Un lion qui était très sympa, qui s'appelait Victor. et donc j'ai voulu avoir d'autres lions et j'ai récupéré des lions de Thoiry, du parc de Thoiry. C'est un grand parc de Paris que en fin de compte ils tuaient les lions, qu'ils avaient trop de bébés, donc ils les tuaient à la naissance. J'en ai récupéré, j'ai dû élever une dizaine de petits lions comme ça, et j'avais un grand parc avec des lions en liberté où je faisais un peu le malin, je rentrais dedans, j'adorais ça. C'est des animaux très très affectueux avec le sens de la famille formidable, et c'est ce qu'on appelle le safari park où les gens visitaient en voiture. Et après j'ai voulu aller étudier les lions au Kenya. Et ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer une thèse, un doctorat, même si tu n'as zéro diplôme, si tu as un directeur de thèse qui l'accepte, qui avait été accepté par Fnefer, qui était le patron du muséum à Paris. Et on est parti avec ma femme Anne étudier les lions au Kenya pendant 3 ans. Et c'est l'aventure suprême où je construis ma maison en bois dans la réserve. Et là où je dis que je passe pas à côté de ma chance, c'est que comme j'ai une période, j'étais un peu guide pour touristes pour gagner ma vie au Kenya, et je rêvais de m'installer dans une réserve. Il y avait des Français qui montaient une compagnie de montgolfières. Donc j'étais les voir, je leur dis, mais vous savez, si vous cherchez un pilote, moi j'aimerais bien faire ce boulot. Et il me dit, on recherche désespérément des pilotes qui veulent rester sur place, que les gars, ils arrivaient. Il restait 3 mois, parce qu'ils en avaient marre, alors que moi, c'était mon rêve de m'installer là-bas. Donc, j'ai passé 3 ans là-bas en étant pilote de montgolfière. Et quand je volais pas, c'est-à-dire je volais une journée sur deux, un matin tôt, et ils ont été libérés à 9h du matin, ben, j'étudiais, on étudiait les lions, et on suivait une seule famille de lions. Et j'avais demandé l'autorisation de le faire en photographie. Une étude était moitié photo, moitié écrite par ma femme. C'était formidable, c'était génial parce que j'avais tout le kit de l'aventurier que tu rêves, tu vois. J'avais 2 petits garçons que ma femme, que j'ai trouvé tout fait, voilà, Baptiste et Guillaume, qui sont mes fils. Partir au Kenya et partager sa vie de famille avec la famille des animaux sauvages autour de toi, c'est formidable. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, le plus, c'est que les animaux sauvages au Kenya n'ont pas peur de toi. Il n'y a pas de prédateurs, et donc les antilopes, les girafes passaient devant ma maison d'une façon incroyable. Et je rêverais qu'en Europe, on travaille sur un projet de Rewild en ce moment, que les cerfs et les biches puissent être approchés comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a tout un monde qui déteste les animaux sauvages. Là-bas, c'était des réserves, donc les animaux n'avaient pas été chassés depuis une centaine d'années, donc les animaux étaient faciles à approcher. Mais en France, pour approcher un cerf ou des sangliers, c'est pratiquement impossible parce que les animaux sont beaucoup chassés, dérangés, et tu t'aperçois que tu as les chasseurs, bien sûr, qui veulent, bon, parce que c'est leur gibier. Tu as les agriculteurs, les dégâts de gibier. T'as les assureurs. T'as les forestiers parce qu'ils mangent les bourgeons. Ces pauvres animaux sauvages, personne n'en veut, quoi. Ils ont pas d'amis. Ils ont les gens comme nous qui les regardent. Et je pense qu'un cerf en vie que tu regardes à la jumelle a bien plus de valeur qu'un cerf mort. Voilà. Alors bien sûr, il faut qu'on apprenne à vivre les animaux sauvages. On ne va pas tuer tout ce qui nous dérange. On est dans un monde, et c'est vrai que tous les animaux sont à notre service. Mais non, l'animal sauvage n'est pas à ton service. Il y a certainement une nouvelle façon de voir les animaux. Et moi, je fais ça sur 30 hectares, qui n'est pas un grand endroit. Je vois le buzz que ça fait, où les gens râlent. Ça va être un réservoir à gibier. Attention, les assureurs, parce qu'il y a des accidents de bagnole. Mais c'est fou. Je découvre un monde que je ne connaissais pas. Et je pense que la fin de ma vie, je vais la passer à essayer de... Alors, bien sûr, le changement climatique. Mais le changement climatique, malheureusement, je crois pas que je peux faire grand-chose. Voilà, il faudra qu'on accepte. Mais sur la biodiversité, quelle est la place qu'on va donner aux animaux sauvages autour de nous? Est-ce que les renards vont continuer à être nuisibles? Le sanglier est nuisible et peut être chassé. Là, je voyais une dernière règle, là, on parlait hier soir avec des amis. Aujourd'hui, les paysans vont avoir le droit de chasser de leur moissonneuse batteuse. Voilà, parce que comme ça, il y a des cerfs et des sangliers dedans. Bien sûr, ça abîme les champs, le colza, mais si on plante du colza près de la forêt, est-ce que c'est pas normal que les animaux viennent dedans, quoi? On veut pas accepter que les animaux sauvages ont aussi leur place. Voilà, ils ont leurs droits. Et je pense que l'opinion publique française, on dit qu'il y a que 2% des Français qui ont un permis de chasse. Et je pense que moi, j'aimerais bien convaincre les 98% qu'il faut arrêter, quoi. Faut regarder nos... Je suis pas contre la chasse. On a besoin de la chasse. Il n'y a pas de prédateurs. Mais on peut peut-être avoir une densité dans les forêts au moins double ou triple de ce qu'il y a aujourd'hui.
Mais pour en revenir au lion, j'ai une question de ma petite fille Amandine.
Comment tu as fait pour ne pas te faire manger par les lions?
Les lions ne mangent pas les humains. D'abord, les lions ont peur de l'homme. L'homme est un animal prédateur du lion. Les Maasai les chassent à la lance. Et donc, on était en voiture. Et dès qu'on sortait de la voiture, les lions avaient très peur de nous. Ils partaient tout de suite. Les lions ne sont pas très inquiet par les hommes. C'est rarissime des lions qui attaquent l'homme. Ils attaquent l'homme quand ils sont en très très mauvais état, qu'ils ne peuvent plus chasser. Et ils attaquent surtout des Maasai, voilà, ou des vieux, des vieillards. Mais les buffles, les hippopotames sont beaucoup, beaucoup plus dangereux pour les animaux que les lions. Et les lions ne mangent pas des hommes, quoi. C'est pas partie de leur nourriture.
Voilà, Amandine, tu peux être rassurée. Voilà. Pour du côté des lions, ça se passe bien. Bon, les lions ne fouillent pas spécialement l'homme au Maasai
Mara. Non, mais dans toutes ces grandes réserves africaines, les lions sont habitués aux visiteurs. Donc voilà, les visiteurs sont comme des arbres. Il n'y a aucune. C'est difficile d'être un lion. Un lion, par exemple, un lion adulte, il n'y a que 10% qui atteint l'âge de 10 ans. Ils sont tués avant, 10%, je parle des mâles. Les lions, 50% des lionceaux meurent la première année, tout au moins celle d'études qu'on a faite, due à l'attaque des hyènes, des lions mâles qui rentrent dans les groupes et qui tuent les lionceaux pour que les lions redeviennent en chaleur. Ouais. Voilà, quand tu es blessé, tu ne peux plus chasser. Donc, ce n'est pas facile, c'est un animal sauvage. Hein. C'est une vie, bien sûr. C'est une vie qu'on n'imagine pas d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'animal sauvage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces lions que j'ai étudiés dans les années 80, aujourd'hui on est en 2020, donc il y a 40 ans, c'est les mêmes descendants de mes lions qui vivent encore dans le Mélion, qui vivent dans le Maasai Mara. C'est extraordinaire de penser que c'est les mêmes lions, parce que le territoire appartient aux lions et les mâles ne sont que les autres de passage.
Ah ouais, dis donc, alors c'est peut-être tes lions que j'ai photographiés, les descendants, alors.
Tu as été dans ma caméra, tu as été.
Ouais, j'ai adoré. Là,
ça. Mais il faut reconnaître que c'est assez extraordinaire.
Alors, je les avais vus du haut.
C'est passé au Kenya que tu faisais là.
Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est des très très beaux souvenirs. Une journée typique, alors là-bas, c'était quoi une journée pour toi là-bas?
On partait le matin, je faisais souvent voler les touristes. Je partais très tôt, 5h30, on décollait vers 6h15, 6h30. On faisait une heure de vol, 7h30, je rentrais en voiture, on buvait un verre de champagne avec les visiteurs. Puis après, je retrouvais ma femme qui faisait l'étude des lions. Je disais souvent par radio, en regardant en ballon, je disais où ils étaient. On n'avait pas de collier radio, on n'avait pas l'argent pour le faire, ni même l'autorisation. Voilà, on était là. Et après, toute la journée avec les jumelles, avec des bouquins. Ma femme faisait souvent travailler les enfants quand je rentrais. Et puis moi, je partais à sa place, voir où étaient les lions. Et toute la journée, tu restes à côté en attendant qu'il se passe quelque chose. Tu bouquines beaucoup, tu lis énormément. Tu cherches, t'attends quelque chose. C'est long, les études. Hein.
C'est
beaucoup d'attente. Et souvent, je me souviens, la première chasse que j'ai faite, je ne l'ai pas photographiée parce que j'attendais. Et il y a un moment, une chasse incroyable, pleine journée, où une lionne saute sur le dos du buffle, très spectaculaire. Et je shoot, je fais des photos. Les lions qui tuent. Hein. Souvent, le mâle arrive à la fin, mais c'est les lions qui sont beaucoup mieux faites pour tuer. Et je n'ai pas mis de film de mon appareil.
Oui, j'avais vu cette histoire.
Et en fin de compte,
tu dis qu'elle te reste cette photo. Ouais,
ben, cette photo, quand je pense à des photos que je préfère, c'est celle que j'ai ratée, celle qui sont dans ma tête. Quoi. Ce qui n'est pas normal de rater une photo quand tu es photographe, t'es pas normal. Et à tel point, moi je suis tellement photographe que je pense que je préfère ne pas voir quelque chose que de le voir sans appareil photo. Voilà, j'ai envie de le marquer. Si il se passe un truc extraordinaire devant moi et que je n'ai pas l'appareil, je suis extrêmement frustré.
Mais moi, je remarque comme toi que quand j'ai eu cette frustration de ne pas avoir l'appareil, je m'en souviens beaucoup mieux.
Oui, bien sûr.
La photo, tu l'imprimes vraiment là.
Oui, mais
à ce moment-là.
Mais c'est pas, on n'a pas
c'est
fait
peut-être mieux, tu l'as toujours avec toi.
Maintenant, avec les iPhones, c'est formidable parce que tu as les appareils, nos téléphones font des photos tellement bonnes que voilà, c'est pas la même photo, mais c'est là. Quoi, voilà.
Ouais. Justement, j'allais te demander, c'est quoi être photographe maintenant que tout le monde fait des photos tout le temps, partout? Ça a énormément changé la photo. Hein. Qu'est-ce qui est fait maintenant? Qu'est-ce qui reste?
C'est vrai que maintenant, tout le monde est photographe. Parce que c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas le film, on n'attend pas, on voit ce qu'on fait tout de suite. Les appareils sont extrêmement sophistiqués, c'est difficile de rater une photo. Donc la photo a énormément évolué, c'est sûr, c'est plus la même chose. Mais le côté journaliste, c'est-à-dire le côté de raconter une histoire avec des images, existe toujours. D'être photographe, c'est d'abord être un journaliste, parce que moi, je ne suis pas un photographe, je ne me prends pas pour un artiste du tout, je me prends pour un journaliste. Et savoir raconter une histoire, ce n'est pas toujours très facile. C'est vraiment une habitude. Moi, je fais partie de ces générations. Je suis né, moi, quand je suis né, depuis que j'ai 30 ans, j'ai développé, comme beaucoup de photographes, je vois dans un cadre, c'est-à-dire que tu vois comme un photographe, quoi, tout en permanence, parce qu'on a fait des centaines de milliers de photos, donc on a une espèce de réflexe. Ton cerveau est encore moi, peut-être un petit peu moins que les autres, parce que je fais pas que ça, mais même quand je fais du film, quoi, j'ai envie de filmer, je suis un Et tout le monde n'est pas comme ça. D'ailleurs, je vois souvent des jeunes qui font du cinéma et de la photo qui ne sont pas comme moi complètement obsédés par la photo. Moi, je suis obsédé par l'image et j'ai toujours envie de faire des photos. Quoi. C'est énorme. Même si je vais à un enterrement, un mariage, il faut que je sorte mon appareil et faire une photo. C'est ce que j'ai envie de faire pour témoigner, pour que ça reste là. Quoi.
Alors, toi, tu découvres Jane Goodall, hein, Goodall pardon, tu as dévoré ses livres. Ton envie d'Afrique, elle s'est pointée aussi lecture.
Cette envie de proximité avec les animaux sauvages qu'elle a découverte et qu'elle a vraiment mise en avant dans ses livres. Voilà.
Alors, tu peux dire aussi, quand on est à la bourre en Afrique, il faut faire attention à ne pas percuter les éléphants.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'un matin, je me souviens, je partais tous les matins et un matin, je suis rentré en plein dans un éléphant qui marchait. Il a poussé un hurlement, c'est bruit. Hein,
c'est vrai.
Et je me suis assis par terre, j'ai presque pissé dans mon foc. Et je suis resté un quart d'heure sans bouger tellement j'ai eu peur. Ouais.
Tu disais que c'était les lions qui t'avaient appris à faire de la photo justement, parce que voilà, tu avais fait au début la photo, c'était
oui,
pas
c'est un peu un gag, mais c'est vrai que j'ai toujours fait de la photo. Mon père en faisait énormément. Même quand j'avais mes réserves zoologiques, je faisais des photos, des cartes postales, mais je n'étais pas vraiment photographe, je faisais en plus. Et là, quand tu travailles tous les jours, tu acquéris une certaine proximité avec ton appareil, même si je voyais mes photos 6 mois après. Il faut savoir aussi, hein, si tu fais des photos à l'aveugle, tu fais des films, tu ne sais pas tout si tu es bon ou mauvais. Quoi.
Oui, c'est ça.
Puis c'est l'époque où il y avait une vitesse, des diaphs, on ne travaillait pas en automatique, on ne savait même pas ce que c'était.
Et développer, mois après.
Oui, puis la mise au point n'est pas automatique, donc tout était, on voit aujourd'hui les appareils, c'est une sophistication incroyable. Et ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris, quoi, mais j'ai adoré ça. Hein. Donc l'appareil photo était le moyen pour moi de faire mes études, donc je vais quelque chose d'intéressant. Je le photographiais, après ma femme écrivait, donc la photo était, et je pense que la photo donne beaucoup plus d'informations, une information qu'on ne peut pas donner par l'écriture. L'écriture peut donner autre chose, l'odeur, tu vois, ton impression personnelle, mais la photographie, moi je suis dans la réalité, dans le concret, et quand tu fais une étude sur les lions, le concret c'est important.
Quand on est photographe, on photographie de tout, partout. Tu as photographié énormément d'animaux, que ce soit des animaux sauvages ou domestiques, mais tu as aussi photographié des personnes, le pape, que tu as filmé aussi d'ailleurs, le président Mitterrand. Alors le président Mitterrand, tu l'as photographié sur la bâche des cochons. Tu peux expliquer ?
Oui, c'était un jour l'Express. C'est un travail que je continue à faire, de photographier les Français en studio. J'adore ces moments. Et là, on fait un film sur la France en ce moment, où je pars justement à la rencontre des Français au monde des studios. D'abord, j'aime photographier. Je demande aux gens de venir avec leurs parents, avec les gens qu'ils aiment. Et donc, ils viennent avec leurs grands-parents, leurs bébés. Et c'est toujours une espèce de fête de voir les gens se faire photographier dans mon studio. Et en pensant, je pense que la photographie, c'est aussi un moyen d'arrêter le temps. Par exemple, les photographes de village, ceux qui font les mariages, les baptêmes, c'est très important. Souvent, on me dit, je suis photographe de mariage. C'est vachement important parce que si tu photographies, à un moment donné, c'est des photos. Et j'avais fait dans mon studio à Minul, dans les années 90, comme ça, plein de familles, et je vois aujourd'hui comme les gens ont changé, quoi. C'est plus les mêmes, beaucoup de gens sont morts, les couples sont divorcés, quoi. C'est vraiment des moments importants. Et là, je vais le refaire. Et j'avais fait, quand j'ai fait mon travail sur les bestiaux, sur les vaches, les chevaux, un jour, l'Express français m'a demandé de faire des photos de Français. Et donc, je suis parti à la rencontre des Français, et j'avais une liste à faire, un médecin, un épicier. Enfin, quand tu photographies les gens autour de toi, parce que ton épicier ressemble à un épicier, un médecin. Donc, je photographiais un boulanger, un curé, donc beaucoup. 50% étaient les gens autour de chez moi, mes amis. Et puis, j'ai adoré faire ce travail. C'était un énorme succès. J'ai continué à le faire. Et d'ailleurs, je lance bientôt dans mon village au Ménul une espèce d'appel où je demande à tous les gens de venir se faire photographier. Et pendant 3 jours, en non-stop, on photographie les gens matin et soir, tu vois. Et j'adore faire ça. Ça m'amuse beaucoup de le faire. Voilà. Voilà, c'est une espèce de voilà, c'est un moment important. Et la photographie, c'est pas toujours de l'art. C'est même rarement de l'art. C'est d'abord un produit chimique, un espèce de voilà où tu imprimes ce que tu vois, quoi. Et donc c'est un 500ème de seconde que tu vas arrêter dans l'éternité et qui va être là, quoi. Voilà, c'est un moment décidé, un moment choisi. Et moi, j'adore photographier les gens qui sont heureux. Et je sais pas, il y a un photographe qui me disait, je vais pas dire son nom, qui me disait, moi, je déteste photographier les gens qui sourient. Moi, je n'aime que photographier des gens qui sourient. J'aime l'amour, j'aime les gens s'embrassent, ils sont tendres. C'est ça que j'aime. J'aime quoi, de voir ça dans la photo.
Et avec leurs animaux, il y a des photos extraordinaires.
On l'a fait avec les animaux, avec les vaches, les cochons, les chiens, les chats, les chevaux, voilà.
Tu as eu la chance de rencontrer Diane Fossé, hein, aussi en tant que reporter, 3 jours avant sa mort, je pense. Hein.
Ah oui, ouais,
ouais. Et tu as rencontré aussi ces gorilles. Tu avais même une anecdote surprenante avec eux.
Oui, ouais, c'est une longue histoire que j'aime bien raconter. C'est que ma femme avait eu un très grave accident de voiture. Elle était enceinte de notre dernier fils, Tom. Elle était bloquée entre les voitures. Vraiment, un accident affreux. Et par miracle, elle a eu les jambes et tout cassé de partout. Et donc elle a accouché à l'hôpital. Et je me suis beaucoup occupé de mon fils, Tom, comme un bébé. On avait quelqu'un dans la journée, mais de 7h du soir à 9h du matin, c'est moi qui m'en occupais. Et je n'avais jamais touché un bébé de ma vie. Donc j'ai adoré faire ça, le laver, le baigner. Et pendant 4 mois, j'ai arrêté de travailler. Et puis un jour, on me téléphone et on me dit « Yann, est-ce que tu veux aller voir Diane Fossé ?» Ben, je dis « Je ne peux pas, je m'occupe de Tom ». Et il y a ma femme que j'entends à côté qui me dit « Écoute, ça va, c'est bon, ça fait 4 mois que tu t'emmerdes, je me démerderai, je me démerde, vas-y, alors moi, vas-y, c'est le rêve de ta vie ». Moi, un peu faux cul, je lui dis « T'es sûr ?» Et elle me dit « Oui ». Donc, je pars au Rwanda, à Kigali, et un bébé sur une péniche, et en partant, c'était le soir, à 9h du soir, ma femme glisse, je la ramasse, et en me ramassant, je me coince le dos. Mais je coince le dos vraiment bien, quoi, le vrai lombago, tu sais que t'es coincé. Je pars quand même, on me fait des piqûres de cortisone, j'arrive voir Diane Fossé qui m'engueule parce que j'étais arrivé en retard, et j'étais arrivé du jour en retard parce que j'étais passé par l'hôpital. Il fallait monter, quoi, c'était compliqué. Et elle me dit, voilà, je ne peux pas aller voir les gorilles parce qu'elle avait un cancer de poumon. Et elle me dit, si vous pouvez, ou de l'asthme très fort, moi, c'était, il y avait un mélange des deux. Et elle me dit, si tu veux, va voir les gorilles tous les jours tout seul et fais-moi des photos. Donc j'y vais, on fait des photos. J'avais toujours très, très mal au dos. Et il y a un groupe de gorilles que j'allais voir tous les jours. Il y avait 3 groupes sur lesquels on travaillait. Et j'étais tout seul avec mes gorilles, là. C'était comme un petit con. Ces énormes animaux qui arrivent autour de toi. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Il pleut. Et en même temps, c'était magique parce que c'est des animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi, quoi. Dès qu'un animal sauvage, qui ne vit sans toi, t'approche, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours un espèce de côté magique parce que les animaux sauvages ont toujours peur de l'homme, malheureusement. Et un jour, il y a le gorille, un dos gris, part faire l'amour avec une copine dans la forêt. Et le mâle domine, le mâle qui était un jeune mâle, mais gros quand même, me fait une parade d'intimidation. Vraiment, il se met à taper sur le ventre. Il y a le poil suéré, c'est double de volume. Je baisse la tête, j'ai la trouille. Il me donne un grand coup dans le dos, il me remet ma vertèbre en place. L'histoire est véridique. Alors que voilà. Et voilà.
Ah, génial. Et il y en a pas un qui s'est endormi sur ton pied aussi?
Oui, mais ça, c'était le premier mâle dominant. Je me souviens, la première fois, j'avais été là-bas. Un énorme mâle gris arrive, me voit, et il me connaissait pas parce que les gorilles savent très bien que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Il me regarde, il vient vers moi, tous les petits viennent autour de moi, et maman, ils arrivent vers moi, ils se regardent droit devant moi. Il se met debout devant moi, le poil suérisse, il se met à se taper sur la poitrine comme un fou. On m'avait dit, surtout, faut pas le regarder dans les yeux. Alors, je baissais la tête comme un fou. Tu te sens tout petit, hein. T'es tout seul avec ton appareil photo, mais d'un groupe de gorilles comme ça. Parce qu'un gorille, il t'arrache les membres, quoi. Et, je le regardais pas. Et à un moment, il s'est assis à côté de moi, comme si j'existais pas. Tu sais, il sent un peu le côté un peu indifférent. Il sait que tu es là, mais il te regarde pas. Il se mettait comme entre moi et les petits. Et à un moment, il s'est endormi. Je me souviens toujours sur mon pied, en ronflant. Et là, je me souviens très bien d'avoir pleuré d'émotion. Je me dis, c'est incroyable qu'un animal sauvage t'accepte à ce point-là, quoi. Te fait confiance, quoi. Et ça, c'est un côté un peu magique.
Ah, carrément.
Et c'est Diane Fossé qui avait réussi, comme Jane Goodall, sur les chimpanzés, à se faire accepter par ces animaux.
C'est une belle histoire, je suis contente que tu l'aies racontée. Alors après, c'est le seul Paris-Dakar, tu l'as suivi 10 fois, puisque tu es reporter. Et alors, il y a cet incident, évidemment, où Thierry Sabine te demande de laisser ta place dans l'hélico au chanteur, un Balavoine. Et ils ne reviendront pas, ce jour-là.
Oui.
Ça fait quoi?
Tu sais, d'abord, le Dakar est quelque chose de très violent. Nous, on suivait en voiture, on a beaucoup suivi en voiture. Et donc, toute la journée, on ramassait des gens blessés, des gens même qui étaient en très sale état. Donc, on était habitué quand même à cette violence. Tous les Dakar, et surtout, c'est ce qui faisait d'ailleurs la fascination du Dakar. Faut pas faire d'illusion. C'était ce côté complètement fou. On se perdait. Il y avait beaucoup, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Donc, voilà. Donc, on ramassait beaucoup de gens souvent. Donc, on était un peu habitué à ça. Mais c'est vrai que j'étais très copain avec Sabine. Je faisais des reconnaissances avec lui. Et j'aimais beaucoup Balavoine, qui était un type qui avait beaucoup de cœur, avec qui on parlait pas mal. Tu te dis, et surtout qu'on ne l'a pas su tout de suite, parce que nous, on ne le savait pas, on attendait les voitures en faisant des photos. Ce jour-là, j'ai repris une voiture, et il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. Donc, ils se sont tués le soir, vers 7-8 heures, et on l'a su le lendemain vers 1 à 2 heures de l'après-midi, parce qu'on attendait.
Mais quand tu sais que tu aurais pu être dedans, s'il n'y avait pas eu ce changement, non, tu n'y penses pas. Non.
Tous les jours, tu traverses la route en courant, tu peux prendre une voiture. Tous les jours, tu prends un avion. Non, j'ai eu un jour un accident d'hélicoptère grave où j'ai failli me tuer. Et vraiment, j'ai cru que je me suis vu mort. Voilà. Et donc là, t'es un peu ivre de joie, d'être en vie, quoi. Et
je me ça t'a changé un peu ou...
Pas du tout, mais non, ça m'a pas changé du tout, mais. Par contre, j'ai repris l'hélicoptère le lendemain parce que je voulais pas. 2 jours après, quand je suis sorti de l'hôpital, parce que je voulais pas avoir peur. J'ai eu peur pendant 1 an. D'ailleurs, pendant 1 an, j'avais mon corps. C'est drôle, des réactions où tu contrôles pas ton corps. C'est-à-dire que tu veux faire des photos, tu montes, mais ton corps est terrorisé. Donc, je me cramponnais au siège. Ça faisait rigoler tout le monde. Et ce jour-là où j'ai eu l'accident, j'étais transporté dans un hélicoptère américain et litreillé. On était litreillé. Bon, c'était vraiment un truc comme dans les films. Et avec un énorme hélicoptère, un Black Hawk, il faisait un bruit d'enfer avec un vent incroyable. Et j'étais tout seul, à poil, dans un hélicoptère avec beaucoup, beaucoup de gens qui avaient été évacués. Et je voulais boire du vin, c'est drôle. J'avais besoin de vin parce que le vin, c'était mes amis, c'était le terroir. Et boire du vin, c'est un peu boire la terre, il y a un peu boire la terre de France. Et c'est drôle, comme je bois du vin aujourd'hui, pas tout le temps, mais souvent je pense à ce moment où le vin était devenu très important pour moi parce que j'étais en vie. Et derrière le vin, il y a les amis, il y a les gens qui le font, et surtout il y a dans le vin, il y a le goût de la terre, je trouve. Donc je voulais sentir un peu terre de France. Et je gueulais du vin, ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir en me disant vous avez bien fait chier hier soir.
Après, il y a eu la terre vue du ciel en parrainage avec un parrainage de Nisco, je pense, qui a complètement transformé ta carrière. Et c'est vrai que tu as vendu ta maison pour sortir le livre ?
Non, je n'ai pas vendu ma maison, mais j'ai hypothéqué ma maison pour finir le travail. C'est-à-dire que tu prends après, quoi. Parce que vous savez, quand tu travailles, l'hélicoptère, ça coûte très cher. J'avais une équipe, je voyageais beaucoup. Mais c'est drôle, j'étais habité par l'importance de ce que je faisais. Je savais que ce que je faisais était important. Et il y a que moi, d'ailleurs, qui le savais. Donc j'allais voir les journaux. Quand tu as vendu 2-3 sujets aériens par an, tu n'y arrives plus. Tu as fait 2-3 bouquins. C'était compliqué, c'était très compliqué de se faire inviter, donc on ramait beaucoup. En fin de compte, c'est Bill Gates qui m'a aidé quand il a monté sa première agence photographique. On a réussi à lui vendre le projet financièrement. Je me suis débrouillé avec ça. Mais toujours un peu ric-rac, mais on est arrivé. Et donc j'ai hypothéqué ma maison pour faire un prêt. Mais en même temps, même encore aujourd'hui, je prends des risques, j'ai des gros prêts parce que tous les projets que tu veux faire, il faut les financer, c'est normal. Ça a changé ma vie parce que d'abord, j'ai énormément voyagé. La Terre est véritablement une œuvre d'art. C'est comme si j'étais dans le plus grand beau musée du monde. Après, tu rencontres des scientifiques, des ONG, ta vie se transforme parce que tu t'aperçois qu'il se passe beaucoup de choses d'inégalité, déforestation, pauvreté, surtout pas les ONG, les gens qui travaillent, les gens qui font. Quoi. Tu es toujours épaté pour voir des gens dans les petits villages qui donnent leur vie aux autres. Voilà. Et quand le livre est sorti, il y avait énormément de légendes. C'était un bouquin, c'était pas du tout un bouquin d'images, c'était vraiment un bouquin de réflexion. Et j'ai eu de la chance inouïe, c'est que tous les musées du monde, les musées du monde, parce que
tout
le monde a refusé les photos parce qu'on était en couleur, parce que t'es pas noir et blanc, parce que je n'ai jamais été un photographe reconnu d'une grande agence, voilà. Photographe de voyage, j'étais un petit peu, tu vois, le style géo. Et en fin de compte, on a exposé dans la rue, grâce au Sénat à Paris qui l'a accepté. Et ça a été un succès incroyable. Encore aujourd'hui, j'ai des expos dans les rues, j'en ouvre tout le temps. Et avec des nouvelles photos, des nouvelles légendes. Et ça a été un succès incroyable. Et on a vendu, grâce à ça, des millions de livres, ce qui n'arrive jamais sur un livre de photos. Et puis après, ce livre m'a amené de pouvoir créer une fondation. Ce livre m'a amené de pouvoir faire de la télévision, d'avoir une émission sur France 2, de faire des films. C'est vraiment ce livre qui m'a ouvert les portes de ce que je suis aujourd'hui.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te rencontrer, puisque moi, ce livre était aussi chez moi, comme beaucoup de gens te le disent.
Voilà, exactement.
Donc, maman l'avait acheté, je me souviens qu'elle était enthousiaste au possible, et elle me l'a offert ce Noël quand elle a su que j'allais t'interviewer.
Oh, c'est mignon.
Alors, le cœur de veau, ça, c'est une chouette histoire aussi, parce que parfois, tu sais qu'une photo va vraiment être importante, mais c'est là
Non, ça... parce qu'en fin de compte, c'était le cœur de veau que j'avais fait à Nouméa sur un livre que j'avais fait à Nouvelle-Calédonie. Et la photo, c'était un cœur, mais elle est devenue forte quand elle est devenue le symbole de livre. Et surtout, j'ai imposé à tous les éditeurs étrangers que le cœur soit en couverture, ce qui ne fait jamais. D'habitude, chaque éditeur à l'étranger trouve toujours une couverture différente, je ne sais pas pourquoi, le marché et tout. Là, je l'ai imposé, ce qui fait que le cœur est devenu un vrai symbole et une photo importante.
Oui, c'est magnifique, quoi.
Oui, mais ce n'est pas une très belle photo. Hein, c'est pas,
non, non, les couleurs sont pas... Mais c'est devenu aussi le symbole de ta fondation.
Oui, un petit peu. Non, mais c'est surtout l'amour qui est le symbole de ma fondation. Voilà.
Mais le cœur est quand même un peu en forme du cœur de veau, je trouve.
Le goût de planète en Belgique, pas en France.
Ah, c'est en Belgique.
Voilà.
Ah, on a le mieux. alors oui, dans Goût de planète, là, c'est... tu dis que tu écris ce lieu comme une utopie.
Oui, c'est un endroit qu'on a ouvert à Paris, un petit château avec 3 hectares, voilà, qui est gratuit. Gratuit, c'est important, ouvert à tous. On parle d'une écologie constructive, humaniste. On parle en ce moment d'une expo sur la biodiversité. Il y a aussi des escape games sur le carbone. On a aussi une école de cuisine. On a beaucoup de choses. Il y en a aussi des bateaux de réfugiés, parce que c'est important d'en parler. Voilà, donc, on parle aussi bien des réfugiés qu'on va parler de la disparition des éléphants, par exemple. Donc, c'est important de parler des deux.
Oui, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'intéresse à l'écologie, on se rend compte qu'on peut pas... tout de suite, c'est l'économie, tout de suite, c'est les gens. C'est un grand tout.
Mais je pense que l'écologie... c'est d'apprendre à aimer la vie. L'écologie, en tout cas, moi, comme je la ressens, ce qui n'est pas toujours le cas en écologie politique. En tout cas, mon écologie à moi, c'est une écologie qui est pleine de bienveillance, de gentillesse, d'acceptation que les autres ne font pas comme toi, et non pas une écologie de combat. Même si je suis un combattant et je l'ai beaucoup fait, mais plus ça va. Pourquoi ? Parce que je m'aperçois que les gens qui changent le monde en écologie, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est comme des gens qui aiment la vie, quoi, qui aiment la vie autour de soi. Souvent des femmes, d'ailleurs, les grandes héroïnes de l'environnement, c'est toujours des femmes, assez étonnamment, de Greta Thunberg, je vais te faire une longue liste. Greta Thunberg n'est pas l'exemple même de l'amour, parce qu'elle est assez en colère, mais elle souffre. En tout cas, on sent quand même qu'elle a en elle une espèce de souffrance de voir la terre qu'elle aime partir en miettes. Et c'est ça qui la rend, je pense, qui amène plein d'émotions. Quoi. Quand on la regarde, on se dit, cette fille, elle a un truc en plus. Et qu'elle énerve beaucoup, mais on n'a pas le droit de se moquer d'elle. Je trouve que c'est une honte de se moquer d'elle. Et elle a réussi à créer un mouvement en plus énorme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je parle de la beauté du monde, tu vois, on dit, là, c'est Dostoïevski qui a dit la
beauté sauvera le monde.
En fin de compte, oui, c'est quoi cette beauté ? C'est pas la beauté des arbres, c'est pas la beauté des glaciers, c'est pas la beauté du corail, c'est les gens qui font, quoi. La vraie beauté pour moi sont les gens qui s'engagent, les gens qui partagent. Regarde comme on est ému de l'empathie dès qu'il y a quelques gens qui font des choses pour les autres. Et c'est ce qui nous épate le plus, en fin de compte. Bon, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, cette beauté, elle s'appelle l'amour, tout simplement. Son vrai nom, c'est ça. Et je pense que c'est pas la beauté qui sauve le monde, mais l'amour. Là, c'est sûr. Voilà. Et tu vois, là, on est en train de faire un film sur les réfugiés en ce moment. Après Human, après Woman, on fait un film sur les réfugiés. On a envoyé une équipe tourner en Pologne, les réfugiés. Et ils parlent bien sûr de la façon des Ukrainiens, comme ils sont partis de chez eux, en laissant les frigidaires pleins, en partant avec un sac en plastique, avec les vêtements qu'ils mettent en... Parce que ça a été très, très, très vite, qu'en fin de compte, ils ont entendu les bombes. La guerre a été très soudaine. Et c'est... ils savaient, bon, mais ils s'y préparaient, mais sans ça, voilà, c'est très longtemps que c'était comme ça. Et ils sont partis en catastrophe dès que les maris sont partis dans l'armée, donc les femmes sont parties avec leurs enfants, faut pas rester là, faut qu'on parte. Et dans ces interviews qu'on a faites, en fin de compte, les gens parlent tous de l'horreur de partir de leur pays, mais surtout, ce qui m'a marqué le plus, c'est la façon dont ils ont été reçus. Voilà, par les Polonais qui les prennent dans leurs bras, qui les embrassent, qui les invitent chez eux et tout. J'ai été soufflé par l'impression que j'ai eue en regardant ce reportage, en me disant les Roches, ça va être Tristounet, les réfugiés qui vont pleurer, mais pas du tout. En fin de compte, ils pleurent d'émotion par l'accueil qu'ils ont reçu. Et là, je sais que dans mon petit village, il y a 10 familles d'Ukrainiens qui sont arrivées. Tout le monde les a pris tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu une seconde se dire, il n'y a pas de place pour eux, tu vois. Tout le monde s'est débrouillé pour donner une place. Voilà. Donc, cette empathie est peut-être encore plus forte que ces sentiments d'homme, tu vois, de guerre, de combat, de grande politique, quoi. Et d'ailleurs, pour parler de ça, je suis toujours assez choqué avec mon pays, la France, le pays des droits de l'homme, le pays est quand même le troisième vendeur d'armes au monde. Et aujourd'hui, le plus grand client français pour les armes, c'est l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui sont deux pays, bien sûr, exemplaires en démocratie et en droits des femmes.
Ah oui, formidable. Hein. Voilà. Il fait bon être une femme sur la planète. Hein. Ben justement, donc, tu en es arrivé au film après la photo. On ne va pas pouvoir parler de tous les films. Hein. Il y a eu Home, Human, que j'adore, Woman, Legacy. Et Legacy, c'est ce que tu t'es venu présenter à Dinan pour aider les sinistrés. Mmh. Voilà, merci encore.
Pas grand-chose.
Alors, toi, tu dis, mes films me font grandir et je crois que je l'ai fait pour cela. Tu vois, les podcasts, je crois qu'on les fait pour la même chose. Dans Human, tu parles beaucoup du regard. Hein, je trouve que c'est vrai que c'est... Je trouve toujours, quand on regarde quelqu'un assez longtemps... Tout le monde est beau. Non, vraiment. Quand tu regardes vraiment longtemps quelqu'un dans l'œil, il y a une beauté qui est
très touchante.
Dans Human,
tout le monde est beau. Il y a pas de, c'est souvent une réflexion, il n'y a pas de gens moches, ça n'existe pas. Human, ça vient d'une expérience que j'ai eue en tombant en panne d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80-90. Et je suis resté quelques jours à discuter avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, les gens qui travaillent au quotidien, la terre à la main. Pour se nourrir. Les gens qui ont peur d'être malades parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille, les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras, des gens qui sont très éloignés de ta vie et qui, en fin de compte, sont souvent bien plus intelligents sur la nature autour d'eux que nous parce qu'ils n'ont pas perdu ce contact. Et donc, j'ai passé 3 jours dans un village comme ça, où, et pas dans un village, une maison avec un type qui avait 2 femmes, avec 4-5 enfants. Et il m'a raconté sa vie et on a parlé pendant 3 jours. Je me suis dit, il m'a tellement appris pendant ces 3 jours que je me dis que dans mon travail sur la terre, ce que je fais, il me manque véritablement la parole des gens. Et on a après la terre du ciel, je me dis, après la terre du ciel, j'irai faire des photos à la chambre. Je voulais faire à la chambre en noir et blanc, très photo, de gens qui vivent sous mes images et leur demander à tous quel est le bonheur, le plat qu'ils préfèrent, voilà, tout ça. Et avoir une photo noir et blanc avec une espèce de fiche technique, que je crois beaucoup aux chiffres, aux textes en dessous, quel est le livre qu'ils ont lu, quelle est la musique qu'ils préfèrent, quel est leur plat préféré. Et ça c'était un projet photographique. Et en fin de compte, La Terre du Ciel est un énorme succès. J'ai été invité partout, des expos, invité à voler, à continuer. Et puis après les émissions, je n'ai pas pu le faire moi-même. Et j'ai donc envoyé 6 jeunes avec des caméras faire un projet qui s'appelait 6 milliards d'autres. À 6 milliards, toi, maintenant, on va presque 9 milliards d'autres, c'est fou. Qu'on a montré au Grand Palais à Paris, où 6 000 interviews ont été montées.
Ouais, j'avais un petit peu une petite vidéo là-dessus. Quelle émotion aussi autour de cette expo.
C'était incroyable. Et après, on a fait cette expo qui avait très bien marché, j'ai eu envie de faire un film qui mélangeait la photographie aérienne, quand le film est aérien. Il faut savoir aussi que faire de la photo, faire du cinéma, c'est un peu la même chose. Quoi. De quand tu es devant un écran, c'est pareil. Tu cherches le cadre, tu travailles les lumières et tout. Après, le montage, la musique, il y a beaucoup de choses en plus. Mais quand même, c'était assez facile pour moi de passer de la photo au cinéma. Et donc, quand j'ai fait ces 6 milliards d'autres, j'ai eu envie un jour de mélanger les deux. C'est un peu voyant le film Tree of Life de Terrence Malick que j'ai eu envie de faire ce film. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe, une espèce d'histoire. C'est rien à voir, mais j'ai eu le déclic et on a eu la chance de faire ce film. C'est vrai que Human est un de mes films préférés. On a fait Woman, qui est un film que j'aime beaucoup aussi sur les femmes. Et là, en ce moment, on est en train de faire un film sur les réfugiés, qui sont sans doute le dernier volet de ces films.
Non, Human, je le conseille plus que chaleureusement. C'est bouleversant.
Et c'est drôle, parce que c'est un film, tu vois, que j'aime beaucoup. Il est sur YouTube. On fait beaucoup de vues, bon, c'est en millions de vues, mais on n'est pas devenu, je pense que Human, et nombre de gens qui me disent, c'est le plus grand film que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. J'ai entendu 100 fois ça. Et en fin de compte, il n'arrive pas à décoller le film. Il décolle, je ne dis pas on est très connu, mais c'est quand même resté une petite...
particulier.
Voilà. Il y a des gens s'emmerdent, 3h20, je dis, c'est trop long, ils n'arrivent pas à tenir, c'est marrant, alors que moi je trouve ça très addictif.
Et moi j'ai toujours dit que l'éternité me faisait peur, mais si l'éternité, c'est pouvoir rencontrer tout le monde et qu'on puisse tous se raconter nos vies, alors je signe à demain, parce que j'adore ça. Et tu vois, quand j'ai vu ton film, je dis, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais je suis contente qu'il existe.
Oui, mais tu sais ce que tu fais un petit peu avec ton podcast.
Ben oui, c'est vrai. Alors, j'ai une question de mon autre petite fille pour toi. Parce que elle s'inquiète aussi un peu pour la planète. Elle a 9 ans, elle. Et elle voit bien pourquoi je fais le podcast. On en discute beaucoup. J'ai l'occasion d'interviewer pas mal de personnes. Et pour moi, c'est très important de les impliquer parce qu'elles sont l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'elles font aussi partie du podcast. Et donc là, il y a la question de Valentine avec toute sa fraîcheur.
Comment tu vas faire pour sauver la planète avec les gens ?
Avec les gens. Parce que je lui dis, il ne va pas faire ça tout seul. Okay, oui, avec les gens alors.
Ça, c'est le genre de question. Les enfants, ils te posent des questions assez toujours dérangeantes, avec leur naïveté, et souvent beaucoup plus violentes en fin de compte que les questions que comment je vais faire. D'abord, je ne vais pas sauver la planète, malheureusement. D'abord, il faut arrêter de dire on va sauver la planète. Ça ne veut rien dire.
On va nous sauver, nous et les espèces.
Elle va continuer à vivre, la planète, elle va continuer à tourner. Voilà, et aujourd'hui, on va essayer de préserver, c'est la vie sur Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a déjà eu 5 extinctions sur Terre, là il y en a une 6e qu'on a mis en route, et c'est quelque chose de terrifiant. Et pourtant...
Je dors pas bien les
nuits. Oui, et, mais on est de plus en plus comme ça. Et je pense que, tu vois, là j'ai fait une émission de télé dimanche soir après Macron, l'élection de Macron, en me demandant quelles sont les premières décisions. Moi, je prends la première décision qu'il faut prendre, c'est redonner confiance à ces jeunes qui ont 20 ans. Quoi. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, quoi, pour 20 ans, disons, entre 30 et 15 ans, sont quand même très au courant de ce qui est en train d'arriver. Ils en ont pris conscience et sont quand même tous très inquiets par l'avenir. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas inquiet pour l'avenir. L'avenir, la fin du monde, elle était dans la Bible. Aujourd'hui, la fin du monde, elle est dans le rapport du GIEC. C'est clair et c'est sans appel. Mmh. Et aujourd'hui, on te dit, on n'a plus que 3 ans pour changer les choses. Donc...
Oui, l'année passée, on disait 10 encore.
Voilà, hein. Voilà, et voilà, et on dirait tout. Parce que personne, mais de toute façon, aujourd'hui, le changement climatique est déjà là. Le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans est parti à jamais, il ne reviendra pas. Il faut se faire mon front avec, on ne va pas tous mourir, mais ça va être plus compliqué. Comment je vais faire? Je suis comme tout le monde, je ne sais absolument pas. En tout cas, il y a une, et je disais justement l'autre jour, qu'une décision assez simple à faire, mais très courageuse et... pour moi impossible, c'est de réduire chaque année de 5% notre consommation d'énergie fossile. Et on va s'habituer, on va s'y habituer. Mais pour faire ça, il faudrait qu'on ait presque un référendum. Est-ce qu'on est prêt, nous les Français, à se dire on va rester à notre consommation d'énergie fossile, on va s'y habituer. Et je pense que ça serait exemplaire pour un président de dire voilà ce que disent les scientifiques. Est-ce qu'on essaye ou pas ensemble et qu'on fasse un référendum. Et ça va être compliqué, voilà. Peut-être que quand je vois Castex le Premier ministre qui va voter dans un jet privé, excuse-moi, mais ils ont rien compris. Quel mauvais symbole à envoyer à tes enfants, un symbole à ton intelligence, et surtout aux jeunes, quoi. Comment le Premier ministre qui prend l'avion, alors t'as des jeunes mecs de 20 ans qui prennent plus l'avion pour pas voyager en disant j'ai pollué la planète, et lui il va aller. Il s'en est pas rendu compte, je lui en veux même pas, parce que je pense qu'il a même pas réfléchi à ça. Je pense que c'est les gens normal, de son cabinet, ouais. De dire mais attendez, vous faites pas ça, quoi. Et il l'aurait pas fait. Mais tu vois, l'Académie des Beaux-Arts, aujourd'hui, par à Nice, toute l'académie, les académiciens, ils partent tous en avion. Je dis, mais prenez le train. Ah oui, mais c'est 5 heures. Ben ouais, c'est 5 heures. Mais on doit le faire. Et si tu veux...
Je suis venu en train.
Non, mais moi, j'y vais pas. Mais si tu veux, c'est étonnant que dans l'académie, il n'y a que moi qui le dise. Mais c'est dingue, quoi. Mais c'est fou.
C'est censé être l'élite, ouais.
Non, mais... c'est l'élite de merde, oui. Je veux dire, c'est... Tu dis merde, c'est pas possible. Et c'est pas des gens plus intelligents, plus cons que moi, quoi. Ils sont.
Quand tu sais les vols à vide pour garder des créneaux.
Oui, mais ça, j'en parle même. Mais tu vois, il y a une espèce de manque de conscience, quoi. C'est quoi la conscience? C'est de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, prendre l'avion, je vais pas empêcher les gens de prendre l'avion. J'ai un copain qui part à un mariage à Lisbonne, son meilleur ami. Il y a pas de train. Pour à Lisbonne en avion, c'est impossible. En train, c'est impossible. C'est incompliqué. J'ai essayé là-bas. Donc, il prend l'avion. C'est pas grave. En fait, mais aller à Nice, bah, t'y vas en train. Moi, je suis scandalisé. De toute façon.
Mais comme tu dis, c'est tout commence par l'empathie.
Oui, c'est plus par sa prise de conscience personnelle, quoi. Je vais pas faire chier tout le monde toute la journée. Arrêter le foie gras. Moi, je viens. Pourquoi le vin est pas bio, tu vois? J'en ai ras-le-bol, quoi. Tu dis, c'est des amis, des gens que j'aime bien, j'en ai ras-le-bol. Aujourd'hui, on est là en train de... on a perdu 80% des insectes à cause des produits chimiques, on a perdu 30% des oiseaux, on est en train d'abîmer la terre. Quand tu es une académie avec des gens, des scientifiques, bah, tu bois du vin bio. Le vin bio est excellent. quand tu vas te déplacer, eh ben, tu prends le train. C'est plus long, bah, c'est long, bah, c'est plus long. Voilà, tu vas perdre deux heures, trois heures par rapport à l'avion maximum, tu vois.
Tu vas peux faire des choses en discuter. Train, en plus, ouais, voilà.
Et puis le foie gras, ben, t'arrêtes, quoi. C'est-à-dire, moi, si, et d'ailleurs, je vais faire une communication en disant, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Moi, je ne veux plus faire partie d'un groupe de gens qui n'ont même pas qui n'ont pas cette conscience, quoi. Ça veut rien dire.
Tu démissionnerais de l'académie?
Je peux pas démissionner. T'es académicien à vie, ça n'existe pas. T'es nommé à vie. Mais c'est pas démissionner, c'est dire aux gens, mais que,
je ne cautionne plus.
Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Si vous voulez plus le voir, voilà, je ne viendrai plus vous voir. S'il y a quelque chose qui va pas là, tu vois.
Oui.
Tu vois. Voilà.
Parle-moi d'amour, du coup, puisque c'est non, ce que tu veux.
Plus ça va, plus j'avance dans ma vie, plus j'ai envie de demander pardon, chose que je n'ai pas bien fait. Alors c'est peut-être, tu vois ce que je veux dire, je l'ai fait à midi, donc c'est pour ça, je ne vais pas dire de qui quoi, mais bon, ce n'est pas très grave, mais des gens que j'aime beaucoup et que je n'ai pas forcément été bien ou pas, bon, après on peut toujours arriver à changer les choses, tu vois, voilà.
Tu as fait un très bon pardon avec ta mère aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Et donc, voilà, j'ai dit un pardon que j'aime beaucoup. Enfin, pardon, c'était pas des choses très graves. Mais c'était plus le dire, voilà, là, tu vois, je pense que je ne m'occupe pas assez bien de toi. Je vais faire mieux, quoi, je vais essayer. Bon, ça, c'est une chose. Mais d'abord, ça me rend heureux de le faire. Je suis content. Toi, je ne sais même pas si j'aurais de le dire, ce n'est pas grave. Et j'ai envie aujourd'hui de...
Ah si, des très beaux passages au contraire sur ton livre.
Ah oui,
tu disais que le restaurant là en Inde où tu fais quelque chose, personne vient te dire merci après, ah ce oui, restaurant. Oui. Et puis après, t'en parles à ton guide en disant quand même, ouais. Et puis je dis, bah, c'est toi qui devrais les remercier.
Oui,
regarde.
C'est un restaurant de mendiants où j'ai fait rentrer 100 personnes dans un restaurant. Oui, ah oui, personne ne me disait merci. Et je disais, mais c'est étonnant. Mais qui a dit, mais t'as pas fait ça pour eux, t'as fait ça pour toi, mon vieux. Il a entièrement raison.
Oui.
Et en fin de compte, là, on fait un film sur la France, ça s'appelle France, une histoire d'amour. Toi, encore le titre. Et on part à la rencontre des gens qui font plus que toi, quoi. Les gens qui inventent, qui font des choses. C'est un film difficile, compliqué, mais voilà, quoi. C'est fait partie de la. De mettre en avant les... Il y a beaucoup d'utopie là-dedans, il y a beaucoup de naïveté, mais peut-être que l'utopie est une vérité prématurée. Voilà.
Ça, c'est très chouette.
Je finis beaucoup mes conférences en disant aux gens que je les aime, et c'est quelque chose qui est toujours bien reçu. Alors, moi, je dis, t'es gonflé de dire ça aux gens que tu connais pas. Oui, mais voilà, c'est un symbole, c'est tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais tu sais, pour finir l'interview, je voudrais te parler de cette fameuse femme, tu vois, malgache. Et je me souviens d'avoir été dans Human, d'avoir fait cette interview, pour moi qui l'ai faite, de cette femme qui, avec quelqu'un qui le faisait à côté de moi, parce que bien sûr, l'interview était faite en malgache, à faire une femme qui sait pas lire, qui sait pas écrire, qui est fameuse agriculteur de subsistance, qui a une femme qui a eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. Et on pose des questions sur le sens de la vie, quoi. Voilà, c'est l'histoire de Human. Et on lui demande quel est votre plus grand rêve. Et elle me parle de la santé de ses enfants, l'éducation, de la météo. Je lui dis, non, mais toi, en tant que femme, profondément. Parce que bien sûr, quand tu demandes aux gens quelle est leur plus grande joie, c'est la naissance de leur enfant, toujours un peu la même chose. Et là, je dis, non, en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve? Et elle réfléchit, puis elle me dit, en regardant dans les yeux, avec un petit sourire, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et c'est quelque chose tellement intelligent, tellement brillant, on va tous mourir un jour. Il faut qu'on accepte sa mort, sinon vivre en étant terrorisé par la mort, tu vis pas bien. Il faut se dire, on va mourir, c'est normal, c'est la vie, c'est un truc qu'on doit apprivoiser. C'est pas facile, mais on doit forcément y penser. Si on n'y pense pas, c'est dommage. Surtout la sienne, celle des autres, elle est insupportable. Mais la sienne à toi, il faut s'y habituer. Et mourir avec le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait ta vie ce que tu voulais, tu as fait des conneries, mais tu as réussi à réparer, tu as appris de tes erreurs, t'as pas toujours été bien, mais... Tu le sais, quoi, tu le sais, t'essayes de t'améliorer. Et donner du sens à ta vie, c'est tellement important, parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et en vieillissant, bah, je suis 76 ans, je me rapproche de plus en plus de ce mauvais moment, quoi. Mais mourir avec le sourire, c'est un graal incroyable, ça, toi. Et moi, j'ai ma vieille tante qui a 105 ans, qui vit dans une maison de retraite. Et quand je vais la voir dans un EHPAD, c'est pas... Tu vois, les EHPAD, ça sent mauvais, ça sent le pipi, il y a des gens qui crient Alzheimer, il y a des couches partout, pas marrant, hein. Je sais pas que je vais la voir, elle est dans sa chambre, et j'ai dit, mais elle m'a avec le grand sourire, elle me dit, comment tu fais pour que, dès que j'arrive te voir, elle a 105 ans, tu vois, tous ses amis sont morts, tu vois, elle vit dans un monde un peu particulier, Et elle est très intelligente, elle lit énormément, une réflexion. Je dis, comment tu fais, dès que je viens te voir, toujours un grand sourire, comment tu fais pour être si heureuse? Elle me dit, c'est pas difficile, je ne vis pas pour moi, je vis pour les autres. Et c'est tellement important, tu vois, quelqu'un qui a donné sa vie aux autres, comme ça l'a rendue heureuse, tu vois. Et moi, j'aimerais mourir heureux. Alors, je ne suis pas du tout très loin d'elle, mais j'essaye. Voilà.
Ben, je crois que c'est un beau mot de la fin. Je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui.
Et je vous aime tous. Merci. Salut.
Alors, j'espère évidemment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux. Et à propos de répondeur, n'oublie pas de me laisser un message avec une astuce sympa. Puisque parler, c'est bien, mais qu'agir, c'est mieux. Et s'entraider pour agir pour que la planète reste un terrain de jeu et d'exploration abondant, eh ben c'est encore mieux. Tu vois, je t'avais promis un rappel, le voilà. Merci d'avance. Sur la page de l'épisode, j'ai mis tous les liens vers les films de Yann Arthus-Bertrand en libre accès sur YouTube. Je te mets aussi les références de quelques livres. Pour préparer ici, j'ai lu Legacy, j'ai beaucoup aimé. Alors pour terminer, je dis un grand merci à Jacqueline Goffard qui m'a aidé à rendre cet épisode possible. Et merci à Anne-Christine Hoth qui m'a mis en contact avec elle. Je vous embrasse toutes deux. Et toi, je t'embrasse aussi, tiens, pour te remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.